Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour découvrir ou réécouter, pour les plus fidèles d'entre vous, le meilleur du meilleur du meilleur de la curiosité. Vous allez bien, Thomas ?
Mais oui, ça va très bien. Salut Sidonie, salut à tous. Bienvenue. Tenez Sidonie, écoutez ça, c'est pour vous. Je suis sûr que ça vous rappelle des souvenirs.
Oh, mais c'est toute mon enfance, ça. Mais pourquoi cette chanson comme ça aujourd'hui ?
Parce que c'est la Saint-Casimir et que Gérald Chalon et André Facetta ont eu cette idée folle. Tiens, d'ailleurs, il y a Casimir qui rentre là.
Coucou, me revoilà.
Eh ben, je suis sacrément gâtée, moi, aujourd'hui.
Ça vous arrache pas des larmes ?
Non.
Non, ce souvenir-là ?
Moi, je me suis endurcie en vieillissant.
Alors, avant de préparer le gloubi-boulgas, comme ça qu'on disait, il y a quoi au programme ce soir ?
Si je vous dis que ce sont
ce midi.
Des petites bêtes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, vous pensez à quoi ?
Aux araignées, forcément.
Et dans la seconde partie de l'émission, vous allez découvrir qu'il en existe beaucoup plus de 1700 espèces.
Oui,
ça fait un peu peur. Et qu'elles étaient là bien avant nous, évidemment, et même avant les dinosaures.
Allez, tout de suite, c'est tenue correcte exigée sur RTL.
RTL.
Je porte aussi de longs bas noirs, des dessous qui laissent voir mille choses blanches et roses dans un frou-frou de satin de linon. Sous ma guêpière et mes longs jupons.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
RTL.
Certainement la femme séduit surtout par son gentil frou-frou.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Berthe Silva, Alain Souchon, Yvette Giraud, les vêtements, ils sont trop courts, trop longs, trop de tissu, pas assez, trop couvrant, pas assez, trop sexy, bref, il fait toujours polémique et ça ne date pas d'hier, c'est ce que nous apprend la passionnante exposition tenue correcte. Exiger quand le vêtement fait scandale. Vous êtes conservateur au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui propose cette exposition, c'est jusqu'au 23 avril. C'est quoi une tenue correcte ? Qui décrète finalement qu'un vêtement est correct ou ne l'est pas ?
Ah, une tenue correcte, c'est une tenue qui est en accord avec l'âge de celle ou celui qui le porte. C'est aussi en accord avec son sexe, son milieu social, son milieu professionnel. Et dans notre culture occidentale, c'est plutôt une tenue sobre, discrète, car il n'est pas toujours de bon ton de se faire remarquer, de se travestir, de porter des couleurs un peu trop vives, flashy, comme on dirait.
C'est pas votre cas, vous êtes arrivé avec un manteau magnifique.
Ah, merci beaucoup.
Ah oui, ça
vous... Décrivez-le nous. Il y a des couleurs, il y a quoi dessus ?
Oui, il y a des couleurs, ce qui est quand même assez peu commun, je dirais, pour un manteau masculin. Mais il y a une toute petite histoire, parce que je l'avais vu essayer dans un grand magasin, porté par un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi. Il devait avoir 28 ans, d'ailleurs, il me l'a dit. Et puis, il a pris ce manteau, il l'a retiré, l'a mis sur le sein. Je lui ai dit, vous ne le prenez pas. Il me dit, ah non, j'ose pas, vous comprenez. La couleur, etc. Je dis, mais vous avez quel âge ? Il me dit, 28 ans. Je dis, mais enfin, s'il y a 28 ans, vous ne pouvez pas porter un manteau de cette sorte. Il se trouvait que je l'ai essayé, je trouvais qu'il ne m'allait pas trop mal. Et puis une dame dans le rayon passe et me dit, monsieur, ce manteau vous va sublimement bien. Alors je dis, hop, je l'achète. Voilà.
Denis Brunat, dans cette histoire de correction, de tenue correcte exigée, la religion, elle a son petit rôle là-dedans. Parce que tout commence bien dans le jardin d'Éden, tout le monde est tout nu. Adam et Ève, ils sont nus, heureux, et puis ils vont devoir s'habiller. Et là, ça commence à poser problème. Et
oui, bien sûr, la religion joue même un rôle essentiel dans notre culture judéo-chrétienne, parce que comme vous l'avez dit, Adam et Ève vivent au jardin d'Éden, ils sont heureux, ils sont nus, ils ont le droit de tout faire, sauf de manger le fruit défendu. On connaît la suite, ils mangent le fruit, ils découvrent que désormais être nus, c'est mal, et Dieu, par conséquent, les expulse du paradis, et à partir de ce moment-là, il leur donne un habit de peau. Et un peu, c'est la longue histoire du vêtement occidental, de
la tenue correcte. Le vêtement, c'est la faute, quoi.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que pendant des siècles, et tout le Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIIe siècle, les lettrés, les hommes d'église, n'ont eu de cesse de répéter que nos vêtements, c'est-à-dire ceux des femmes et des hommes, étaient le signe visible de la faute d'Adam et Ève, et du péché, et c'est pourquoi le vêtement de devait être le plus discret, le plus sobre, à la fois dans ses formes, dans ses couleurs, dans ses matériaux. Et dès le XVIe siècle, on a fait la différence entre les couleurs honnêtes et les couleurs déshonnêtes. Donc les couleurs honnêtes qui sont encore en vigueur de nos jours sont le noir, le gris, le blanc, le bleu. Et les couleurs déshonnêtes sont le rouge, le jaune et le vert, qui sont toujours des couleurs difficiles
Oula,
à porter.
Et le rose alors, c'est pire que déshonnête, c'est quoi ?
Ben, ça dépend, je dirais. Pour un garçon, c'est plus difficile. difficile de nos jours, mais sinon, c'est particulièrement une couleur déshonnête, oui.
Alors, on aime bien ici se balader dans le temps, Denis Brunat, donc on va faire un grand saut là, jusqu'en 1946. Le bikini, à la sortie de la guerre, ça fait scandale? Est-ce que c'est l'un des vêtements qui fait scandale dans votre expo?
À la sortie de la guerre, ça fait partie en tout cas des vêtements qui ont fait le plus scandale, mais le bikini ne choque pas seulement, comme on le dit le plus souvent, parce que c'est un maillot de pièce, parce qu'en 1946, le maillot de pièce existait déjà, mais à son apparition, le bikini a fait vraiment l'effet d'une bombe à cause de ces quatre tout petits triangles de tissu, à savoir qu'il en faut deux pour les seins, un pour le pubis et le dernier pour les fesses. Mmh. Et le maillot était très échancré au niveau des hanches et le nombril, autre tabou, était visible.
Ouais. Ah, alors que les bikinis précédents cachaient le nombril.
Les bikinis précédents.
Il y avait beaucoup plus de tissu, c'est ça ?
C'est-à-dire que les maillots de pièces précédents étaient.
Les bikinis de grand-mère.
Voilà, les bikinis de grand-mère, ça c'est la phrase êtes-vous. Les bikinis donc, précédents, donc avant 1946, étaient beaucoup plus hauts, en tout cas cachaient indiscutablement le nombril, oui. Mmh.
Mmh. Alors si on porte un bikini, on peut très bien porter une mini-jupe, ça c'est en 65. La mini-jupe qui dévoile les jambes des femmes. Et là aussi, les ennuis sont de retour. Qui est le créateur de cette mini-jupe ?
Je ne pense pas qu'il y ait un créateur, un inventeur de la mini-jupe.
Un revendicateur,
un
peut-être ?
Un revendicateur. Il y a eu deux revendicateurs. Il y a eu donc, André Courrèges en France, il y a eu Mary Quant en Angleterre. Mary Quant a dit, justement, me semble-t-il, que l'esprit, que le désir de la mini-jupe était déjà présent dans la rue au début des années 1960. Ouais.
C'est marrant, on parle spontanément de vêtements de femmes. Est-ce que ce sont souvent ou toujours les vêtements de femmes qui font scandale ?
Non, pas toujours. D'ailleurs, à l'exposition, on a tenté autant que possible de présenter des vêtements d'hommes qui ont fait scandale. Mmh. À l'exposition, on présente des chaussures du XIVe siècle, des capuches aussi du XIVe siècle, mais des culottes et des pantalons 16, 17, 20e siècle qui ont choqué à leur apparition. Toutefois, les femmes ont par leurs vêtements provoqué plus de scandales que les hommes parce qu'elles avaient plus de liberté vestimentaire et que ces libertés, vues souvent comme des transgressions à la règle, ont souvent dérangé les esprits conservateurs.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
À la curiosité, on travaille en équipe. Et il y a quelques jours, l'une de nos journalistes, Caroline Dangle, est revenue en nous disant qu'elle était allée voir cette expo tenue correcte exigée au musée des Arts Déco à Paris. Quand le vêtement s'est fait scandale, elle nous a dit « ça, c'est un thème pour nous ». Ben voilà, ni une ni deux. Le commissaire de l'exposition, conservateur du musée des Arts Déco, Denis Brunat, est avec nous pour raconter donc l'histoire de ces vêtements qui ont fait scandale au fil des siècles. Donc, on était juste avant la pub dans les années 60.
Et vous portiez une mini-jupe.
Avec la mini-jupe. Ben là, on va repartir au 14e siècle. Et là, c'est un pourpoint que je vais décider de porter. Et je prends un risque, Denis Brunat. Pourquoi ?
Ben vous prenez un grand risque, quoique les hommes de l'aristocratie, en tout cas des élites, portaient un pourpoint. Ça peut être un risque parce que le pourpoint est un vêtement court qui est extrêmement à la mode à la fin du XIVe siècle. Il est court, c'est-à-dire qu'il s'arrête au niveau de la taille. Et il fait polémique pour deux raisons. D'abord parce que dans la doublure, on va y mettre des rembourrages de coton, des vieux chiffons pour qu'ils soient bombés sur la poitrine. Ouais. Et les moralistes, qui ont souvent la dent dure, disent que les hommes, par ce bombement, semblent avoir des mamilias mulierum, ce qui en français veut dire des mamelles
femme.
De femmes. Oh, voilà, donc vous avez une poitrine. En quelque
D'accord.
sorte. Et le deuxième point, je dirais, non des moindres, c'est vu que ce pourpoint est extrêmement court, il s'arrête au niveau de la taille. Par conséquent,
on voit quelque chose en dessous, c'est ça ?
On voit d'abord toutes les jambes qui n'ont jamais été visibles, justement, notamment les jambes des hommes n'ont jamais été visibles jusqu'au XIVe siècle.
Ah oui ?
Mais pas seulement, puisqu'il laisse voir les fesses. Et selon un auteur anglais du XIVe siècle, il disait que les fesses des hommes qui portent des pourpoints ressemblent à un derrière d'une guenon en pleine lune. Voilà, je vous laisse deviner ce que ça peut être. Et s'il y a les fesses qui sont visibles d'un côté, il faut imaginer qu'on peut voir de l'autre côté autre chose.
Ah
et
bon
le même auteur, oui, n'est-ce pas ? Et le même auteur dit que ces pourpoints sont si petits, et je cite, qu'ils ne couvrent pas le membre honteux des hommes, ce qui fait naître des mauvaises pensées. Donc le pourpoint est un vêtement dangereux.
On ne l'a pas porté très très longtemps, ce pourpoint, si ?
Ah, il était quand même pas mal à la mode entre 1360, 1380, puis il est revenu entre 1420, 1450, ouais.
Alors si moi, par exemple, au XVe siècle, je décide de m'enticher d'un hennin et d'un corset. Là aussi, je suis une scandaleuse.
Mais il faut imaginer que l'on risque de se moquer de vous, en tout cas dans la rue, que les gens se retournent sur votre passage, que l'on vous montre du doigt.
C'est quoi un hennin ? Le hennin, corset, on imagine bien, mais un hennin.
Alors le hennin est une coiffure haute, le plus souvent pourvue de deux pointes. Et d'ailleurs, à cette époque, on parle plutôt d'une coiffure à cornes.
D'accord.
C'est toujours une coiffure qui est réservée à l'élite. Et on critique ces coiffures parce qu'elles apparaissent comme un signe de richesse et un signe de luxe. Et c'est un signe d'orgueil. Et chose plus grave, comme ces coiffes sont pourvues de cornes comme les animaux, comme le diable, on dit que le diable était pourvu de cornes. Et par conséquent, ces coiffes bestialisent et diabolisent les femmes qui les portent.
Ouais. Et le corset les rend plus sexy, ces femmes ? C'est pour ça que...
Exactement. Mmh. C'est-à-dire que dès le 15e siècle, les femmes portent des corsages très serrés pour avoir une taille fine. Donc déjà, on va dire à cette époque. Et les textes nous disent qu'on porte ces corsages très serrés pour avoir belle taille et gorge haute, c'est-à-dire avoir une taille fine, une poitrine haute, ce qui dérange les moralistes.
Et des mamiliaris mulieris.
Si Denis lui proposait de porter des chaussures à la poulaine, alors ça ressemble
ça
à quoi
si
ça, c'était au 14e siècle, ça ressemble à quoi ces chaussures? Et pourquoi ont-elles fait scandale?
Alors d'abord, Sidonie aurait eu beaucoup de mal à en porter, d'abord parce que les chaussures à la poulaine étaient exclusivement réservées aux hommes. Mmh. Et les chaussures à la poulaine sont des chaussures qui sont pourvues d'une pointe, et la pointe, donc une sorte de bec même, qui peut varier entre 8 et 10 cm. Alors on trouve cela très indécent dans les années 1360, 1370, tellement que le roi de France, Charles V, interdit qu'on en porte à la cour. Et ce qui gêne le plus, c'est bien sûr la pointe, c'est bien sûr ce bec qui apparaît comme un prolongement anormal du gros orteil. Ouais.
C'est phallique ou ça, ça
non,
une arme,
c'est
qui
pas
gêne
phallique, ce n'est pas une arme, mais c'est-à-dire si à ce prolongement donc, de l'orteil dans la culture chrétienne de cette époque, ça apparaît non seulement comme une déformation du corps de l'homme, n'oublions pas que dans la culture, je dirais, c'est Dieu qui a créé et l'homme beau, et que si l'homme déforme le corps qui a été fait par Dieu, donc on déforme par extension le corps de Dieu, donc c'est extrêmement mal vu, mais aussi ça a une connotation animale, voire diabolique à nouveau, parce que le bec de la pointe de la chaussure recouvrerait un ongle très long, voire la griffe du diable.
Ah, décidément, wow, le diable est encore de retour. Alors, ces chaussures, c'est marrant, ça m'a fait tout de suite penser aux armures et à la guerre. En fait, il y avait ces images de joutes avec effectivement des chaussures très très pointues comme ça. C'était la même époque, un peu les mêmes modèles, si j'ose dire.
Non, je pense qu'on a il y avait un usage militaire. Je pense qu'on a peut-être la même image à l'esprit. C'est dans le film Les Visiteurs, où l'une des premières scènes, le roi Charles VI, le roi Louis VI tape justement avec son pied, oui, avec une poulaine en fer. Oui, parce que je dirais cette mode a été très importante entre 1360 et 1380. Il semble qu'elle est retombée et qu'elle est reprise justement de vigueur dans les années 1450. Il est vrai, par exemple, au musée, on expose en tout cas une poulaine pour une armure qui date de ce milieu du 15e siècle.
Oui. Okay.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Déshabillez-moi. RTL.
De la mode, tel est son nom de code.
La curiosité est un vilain défaut.
Victime de la mode.
Au soleil, complètement nu. Au soleil,
déshabillez-moi. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous nous écoutez tout nu, au soleil, en bleu travail.
Ça, faut avoir envie en ce moment.
C'est vrai.
Parce que j'ai bien essayé à l'heure du déjeuner, il y avait un beau soleil sur Paris, mais bon.
Mais vous savez qu'on nous écoute dans certains coins
de la
France.
Ah, beaucoup
plus loin. Ben oui,
oui, il fait beaucoup plus chaud. On parle chiffon dans la curiosité, on découvre les vêtements qui ont fait scandale, qui ont choqué au fil des siècles avec notre invité Denis Brunat. Je rappelle que votre musée, le musée des Arts Déco de Paris, propose une expo sur ces vêtements qui font scandale jusqu'au 23 avril. Et c'est une visite de cette expo qui nous a donné envie comme ça de vous donner la parole. Alors, la mode, elle est fluctuante. On le sait, il y a des retours de flamme, si j'ose dire, mais c'est aussi une série de contradictions. Et le pantalon, on sait quelque chose. On va raconter un peu l'histoire du pantalon, du futal. Au XVIe siècle, les hommes les portaient plutôt comment, les pantalons ?
Au tout début du XVIe siècle, les hommes portaient des pantalons, des culottes, pour dire vrai, qui étaient particulièrement amples. Très très ample
et
très bouffant, ouais, tant qu'elles étaient, je dirais, très courtes au niveau des cuisses, ces culottes. Et les moralistes n'aimaient pas beaucoup ça parce qu'à nouveau, je dirais, le vêtement était tellement ample qu'il donnait vraiment une forme un peu bizarre à ce corps. Toujours l'idée que le corps avait été créé par Dieu et que le corps par le vêtement, on pouvait, je dirais, suggérer une malformation. Voilà. Et progressivement, les pantalons ont évolué, quoi, les culottes aussi.
Attendez, quand on dit culotte est pantalon. pantalons, c'est différent dans l'histoire ou
c'est
les,
à peu près
les
la
culottes
chose,
et les pantalons
voilà.
du Moyen-Âge
voilà, C'est-à-dire que
les
pantalons apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution. D'ailleurs, les sans-culottes portent des pantalons parce qu'ils ne portent plus de culottes. Mais on va dire que de 1600 à 1790, les hommes portent des pantalons courts qu'on appelle des culottes.
Donc voilà. Je ne peux pas dire à Thomas, il est beau, elle est belle votre culotte aujourd'hui, parce qu'il ne va pas bien le prendre, il est en pantalon.
En 2016, ça fait drôle. Quoi. Non,
c'est voilà. pour bien vérifier la sémantique.
Ça va surprendre ceux qui nous rejoignent là tout de suite, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte quoi, voyez. Alors au XVIIe siècle, il y a une drôle de mode, Denis Bruna, c'est, alors j'ai découvert ce mot hein, en préparant l'émission, la culotte à la ringrave. Qu'est-ce que c'était ça ?
La culotte à la ringrave, c'est une culotte qui était très à la mode à la cour de Louis XIV dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est des culottes qui étaient à nouveau très amples, qui étaient tellement amples qu'on ne voyait pas la séparation entre les jambes. Et elles ont été critiquées sur différents points. D'abord, elles étaient tellement amples qu'elles avaient l'aspect notamment d'une jupe. Donc on parlait à nouveau de l'efféminement, je dirais, des hommes. Et surtout, une fois, ça gênait une fois encore parce que justement ça modifiait le corps. Et Molière, qui n'était pas je dirais très à la mode, en tout cas qui a beaucoup critiqué les modes de son temps, il disait que c'était des sottises où tous les matins on mettait ses jambes esclaves dans des entraves parce que cette culotte gêne la marche. Ouais.
Alors on va faire un petit saut dans le temps, les pantalons évidemment se sont quand même affinés avec le temps pour devenir plus droits, moins amples, donc on voit bien la séparation entre les deux jambes, apparemment ça a l'air très important, et jusqu'en 1930 où des étudiants d'Oxford font scandale. Pourquoi ? Il se passe quoi ?
Ils font scandale parce qu'ils vont porter à nouveau des pantalons larges, notamment très larges au niveau notamment du bas des jambes. Et il faut imaginer que l'extrémité inférieure du pantalon pouvait atteindre pratiquement 60 cm, donc c'est particulièrement large. Et donc ce sont des étudiants excentriques, ils sont jeunes, ils veulent un peu se démarquer un peu de cette ambiance d'Oxford. Ils sont à nouveau critiqués en disant que ces pantalons ressemblent à des jupes, que ça cache les jambes. Et c'est un petit peu ça, je dirais, l'idée d'avoir fait cette vitrine au musée, c'est qu'on retrace l'histoire des culottes et des pantalons amples de 1600 à 1990 avec les baggy pants. Et ce qui est très intéressant, c'est personnellement ce qui me fascine, je dirais, dans l'histoire des vêtements, c'est que sur presque 4 siècles, les critiques sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, on critique le fait que c'est ample, ça féminise, qu'on ne voit pas la différence entre les jambes et que ça gêne la marche. Et on a dit exactement la même chose dans la presse en France en 1990-2000 quand la mode des baggies est arrivée.
Ouais. Alors, ces fameux baggies, là, c'est des grands pantalons larges qui se portent un peu sous la culotte, en tout cas pour les, enfin sur le slip, pardon, pour les garçons. Ça me fait penser un peu justement
sur
à la culotte,
hein,
le caleçon. Il y en a qui mettent des slips.
Ah bon, vous avez vérifié?
Oui. J'en ai croisé quelques-uns dans ma vie. En tout cas, ce baggy me fait penser à cette fameuse culotte de ringrave du 17e.
Oui, mais c'est vrai.
Pas très confortable et un peu ample.
C'est-à-dire que si on lève la syntaxe, c'est-à-dire on lève un petit peu le style littéraire à la fois des écrits du 17e siècle, c'est-à-dire si on le met en langage en français moderne, on pourrait très bien prendre les mêmes critiques qui ont été dites sur les pantalons, sur les culottes à la ringrave au 17e siècle et les appliquer mot à mot sur les mêmes critiques au sujet notamment de ces pantalons des années 1990.
Ouais. Et qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années là ? Puisque c'est un éternel recommencement, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme pantalons ou comme vêtements qui vont faire scandale d'après vous ?
Alors d'abord, je suis historien, je ne suis pas devin, mais mais une chose qui est vraiment très appréciable avec la mode, c'est que la mode, une mode nouvelle vient s'opposer à une mode qui est ambiante. Donc, et comme là, j'ai l'impression qu'on est en train de toucher, que la mode du skin et du slim touche à sa fin. Et
donc, du ultra moulant, pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais ou qui ne s'habillent pas comme ça.
Vous avez raison. Donc, à la mode donc, très moulante, je dirais, touche à sa fin et que l'on voit apparaître, c'est très timide, mais ça apparaît, en tout cas, donc, des tenues beaucoup plus amples, avec des vestes avec des carrures larges. Un tantinet 1980, que j'ai bien connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en effet, donc, la mode on va dire, du moulant est progressivement remplacée par la mode du trop large. Voilà.
Merci infiniment, Denis Bonnat. C'était passionnant.
Merci.
Et votre exposition est formidable. À découvrir, tenue correcte exigée. C'est un clin d'œil, évidemment. Quand le vêtement fait scandale, exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris est à découvrir jusqu'au 23 avril. À suivre sur RTL, la découverte passionnante et un petit peu effrayante aussi des araignées.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.